La conversion thermique de l'énergie solaire consiste à intercepter les photons incidents sur un matériau absorbant dont la température s'élève. Pour convertir la chaleur en électricité, plusieurs types de capteurs peuvent être utilisés. Les capteurs sous vide sont une solution aujourd'hui sérieusement envisagée. Ces capteurs sont généralement composés de modules comprenant une épingle en U de petit diamètre, de l'ordre du centimètre, munie d'ailettes et insérée dans un tube en verre de grand diamètre, de l'ordre du décimètre. Le fluide caloporteur circule à l'intérieur de l'épingle. De tels modules sont mis en parallèle pour constituer des capteurs plans. Leur température de fonctionnement est de l'ordre de 100 à 120 degrés Celsius. Les capteurs cylindro-paraboliques sont des cylindres de section droite parabolique qui permettent de concentrer le rayonnement solaire sur un tube rectiligne avec une concentration voisine de 40 à 80. Cette technologie ne nécessite de suivre le mouvement du soleil que selon une direction, mais la concentration et donc la température de captation sont modérées, 400 degrés Celsius. Les concentrateurs linéaires de Fresnel utilisent d'étroits miroirs plans rectangulaires pour concentrer la lumière solaire sur un absorbeur fixe constitué d'une série de tubes parallèles. La concentration est de l'ordre de 30. Comme les capteurs cylindro-paraboliques, cette technologie ne nécessite de suivre le mouvement du soleil que selon une direction. Dans les capteurs paraboliques, le réflecteur est un paraboloïde de révolution. Cette technologie nécessite un double mouvement de poursuite du soleil, mais permet d'atteindre des températures beaucoup plus élevées, 750 à 1000 degrés Celsius, la concentration pouvant atteindre 100 à 2500. Dans les centrales à tours, des milliers de réflecteurs mobiles, appelés héliostats, redirigent le rayonnement solaire incident vers un absorbeur situé au sommet d'une tour, permettant ainsi d'obtenir à la fois de fortes concentrations, de 200 à 700, et des puissances importantes. Cette technologie nécessite aussi un double mouvement de poursuite du soleil pour chaque héliostat, mais permet elle aussi d'atteindre des températures très élevées, 750 à 1000 degrés Celsius. Des modèles de capteurs solaires ont été établis dans Thermoptime sous forme de classe externe, afin de pouvoir étudier des centrales électrosolaires. Ces modèles utilisent trois paramètres. L'efficacité optique du capteur, TO, deux coefficients d'échange thermique, U0 et U1, rapportés à la surface du capteur. Bien évidemment, la puissance produite est proportionnelle à la surface de captation. Le bilan enthalpique du capteur est donné par ces équations, où I est la puissance solaire incidente, TM la température du capteur et TX la température extérieure. En divisant la chaleur collectée par le produit de la surface du capteur par l'ensoleillement reçu grand I, on peut exprimer le rendement sous forme de cette équation. À titre d'exemple, ce tableau donne des valeurs de coefficients valables pour quatre catégories de capteurs. Deux types de cylindro-paraboliques loose, un concentrateur parabolique et un capteur à lentille de Fresnel linéaire. Cette figure montre l'influence de l'écart de température entre le fluide caloporteur et l'ambiante sur les performances des capteurs. Elle illustre bien l'intérêt de la concentration, mais montre aussi que les capteurs sous vide, qui ne nécessitent pas de dispositif de suivi, conservent des performances attractives jusqu'à un peu plus de 100 degrés Celsius. Voici l'écran d'un capteur solaire dans Thermoptime. L'efficacité optique et les deux coefficients de perte thermique sont ceux des capteurs solaires loose 3. La valeur du flux solaire incident I est de 1000 watts par mètre carré et la température extérieure vaut 30 degrés Celsius. La surface de capteur SC est de 140 000 mètres carrés. Le rendement des capteurs est estimé à 72,8% et la puissance thermique fournie de près de 102 MW est calculée. La technologie aujourd'hui considérée la plus mûre est celle des capteurs cylindro-paraboliques, ceci grâce à l'expérience acquise en Californie, dans le désert de Mojave, où sont opérationnelles depuis 1984 9 centrales de taille unitaire comprises entre 14 et 80 MW, totalisant 354 MW. Dans les centrales SEGS, la vapeur reçoit sa chaleur d'une huile thermique chauffée à une température maximale de 393 degrés Celsius par un champ de capteurs solaires cylindro-parabolique. La température de surchauffe est dans ces conditions limitée à 371 degrés Celsius et la pression de la vapeur à 100 bars. Par ailleurs, ces centrales étant utilisées dans des zones chaudes et ensoleillées, la température de condensation est relativement élevée, 40 degrés Celsius, soit une pression voisine de 0,082 bars. Le niveau de température est donc relativement faible comparativement aux centrales électriques classiques et leur rendement sans prélèvement est de l'ordre de 33%. Pour augmenter la puissance de la centrale et surtout lui permettre de fonctionner en l'absence d'ensoleillement, un appoint est souvent prévu. Lorsque la chaudière d'appoint fonctionne en permanence, on parle de système hybride. Nous ne développerons pas ici, faute de temps, la présentation des centrales SEGS. Une piste d'approfondissement est proposée à ceux que ce sujet intéresse particulièrement. Comme nous l'avons vu lors de la première semaine de ce cours, vous savez qu'il est souvent possible d'améliorer le rendement d'un cycle à vapeur en procédant à une régénération interne grâce à une série de prélèvements réalisés au niveau du poste d'eau. Le gain en rendement est obtenu en réduisant les irréversibilités qui prennent place lorsque l'apport de chaleur à basse température dans l'économiseur est fourni par la source chaude à haute température. Plus le rendement du cycle de base est faible, plus l'effet relatif des prélèvements est important. Dans le cas des centrales SEGS, l'optimisation du poste d'eau permet d'atteindre un rendement d'environ 37,5%, soit une amélioration de 11% par rapport au cycle simple. Les systèmes à capteurs paraboliques sont ceux qui permettent d'atteindre les concentrations les plus élevées et donc de recourir à des cycles à haute température plus performants. Toutefois, les contraintes de suivi très précis du soleil et de résistance mécanique, notamment aux effets du vent, viennent limiter leur taille et donc leur puissance. Sur le plan technologique, peu de machines sont disponibles, le couple haute température et petite puissance se rencontrant rarement. Deux technologies sont ici en concurrence, les microturbines fonctionnant suivant le cycle de Brayton et les moteurs Stirling. Ces derniers, qui conduisent au meilleur rendement théorique, mais souvent à des efficacités réelles nettement plus faibles, présentent essentiellement l'avantage d'être bien adaptés aux petites puissances, à la différence des turbines à gaz, dont les vitesses de rotation augmentent en fonction inverse de la capacité. Dans les deux cas, un appoint est généralement prévu pour pallier l'absence momentanée d'ensoleillement correspondant à un passage nuageux. Il est possible de modéliser un cycle Stirling dans termes optimes, mais l'écart entre les performances théoriques et réelles étant important, la confiance que l'on peut avoir dans ce modèle est relativement limitée. Le moteur Stirling faisant appel à une détente réchauffée, il faut réintégrer dans le bilan la chaleur apportée pendant la détente. Nous ne développerons pas ici, faute de temps, la présentation des moteurs Stirling. Une piste d'approfondissement est proposée à ceux que ce sujet intéresse particulièrement. Cette figure montre le synoptique d'un concentrateur solaire à microturbine à gaz. Le récepteur solaire à air chaud est disposé en amont de la chambre de combustion d'une microturbine, réduisant ainsi la consommation de combustible et conduisant à un rendement de 31% en tenant compte dans l'énergie payante de la chaleur solaire. Une exploration dirigée vous permettra d'étudier ce cycle en détail. Deux types de cycles thermodynamiques sont utilisés dans les centrales à tour, soit un cycle à vapeur à environ 520 degrés Celsius et 100 bars, avec une resurchauffe, soit un cycle de Brayton à air chaud. Un certain nombre de centrales expérimentales ont été réalisées depuis une trentaine d'années. Témis en France, Solar One puis Two à Brasto en Californie, CESA à Almería en Espagne, Eurelios. Compte tenu des très hautes températures atteintes dans l'absorbeur, il est difficile de trouver un fluide caloporteur organique suffisamment résistant. Et on fait appel à des sels fondus qui peuvent éventuellement être stockés pour découpler la captation du rayonnement solaire de son utilisation, permettant ainsi à la centrale de fonctionner lors de passages nuageux ou la nuit.